France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'été arrive et avec lui ses longues journées éclairées par une étoile qui trône au centre de notre système planétaire, le Soleil. Mais au fait, pourquoi le Soleil brille-t-il ? Il a fallu attendre la fin du 19e et le début du 20e siècle pour que l'on comprenne que cette étoile n'était pas régie par des mécanismes de combustion, mais bien par la fusion d'atomes légers, l'hydrogène et le bien nommé hélium. Science Chrono retrace aujourd'hui cette histoire d'une transition entre astronomie et astrophysique qui nous a permis de rentrer dans l'intimité du Soleil. Jean-Philippe Luzon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cosmologiste, physicien théoricien, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous venez de publier aux éditions Flammarion le livre « Une histoire populaire de l'univers ». Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter comment on est passé de la description du Soleil à l'explication de ses mécanismes. Alors avant de nous rapprocher un peu plus près de l'étoile, je vous annonce le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous nous rendrons sur un chantier de fouilles préventive à quelques kilomètres au sud d'Auxerre, où les équipes de l'INRAP viennent de mettre au jour une villa gallo-romaine monumentale. Mais avant de partir prendre des coups de soleil sur ce chantier de fouilles, revenons à une histoire des sciences ensoleillée, elle aussi, avec vous, Jean-Philippe Luzon. Cette année 2025 marque le centenaire de la mort de l'astronome et pionnier de la vulgarisation scientifique en France, Camille Flammarion. Le titre de votre livre, je le disais, « Une histoire populaire de l'univers » est un clin d'œil évident à un ouvrage clé dans l'histoire de la vulgarisation scientifique, « L'astronomie populaire » de Camille Flammarion. Ce même Camille Flammarion auquel vous vous adressez directement dans les pages de votre livre. Alors si on doit dire deux mots rapides de votre livre, quelle était l'intention et pourquoi vous tutoyez Camille Flammarion de la sorte?
Peut-être parce que c'est un collègue et que on aurait pu se rencontrer. Bien sûr, le temps nous sépare, mais quand on fait de la recherche, on parle beaucoup avec les fantômes à travers les articles, à travers nos calculs. Et c'est pas rare parfois que quand vous lisez un texte, par exemple, que vous tutoyez Einstein ou Feynman. Et donc c'est parce que on s'intéresse aux mêmes questions, donc on fait communauté. Et je trouvais que ça s'est venu naturellement, surtout. C'était ça le point de départ. Et il se trouve que moi, je suis membre de la Société astronomique de France. Et
fondée par
on a accès à l'Observatoire de Juvisy, aux archives Flammarion, et je me suis souvent perdu dans les archives. Et c'est vrai que dans les archives, il y a des caisses de lettres qu'il a reçues, hein, de sa correspondance avec Victor Hugo, avec Gustave Eiffel, avec Poincaré, Henri Raymond, avec des inconnus. Et d'ailleurs, je cite quelques lettres anonymes, parfois, qui sont assez intéressantes, qui montrent en fait l'atmosphère scientifique de ce Paris et de cette France de la fin du 19e siècle, où on a un mélange de penseurs, d'astronomes, de scientifiques, de politiques, qui s'intéresse au fait de la science. Et ça aussi, ça m'intéressait beaucoup parce que la façon de faire de la science a énormément évolué en un siècle. Elle s'est professionnalisée. On a eu la création de centres de recherche, de méthodologies. C'est venu aussi avec l'évolution des outils d'expérience et d'observation qui sont beaucoup plus coûteux, qui demandent aussi une plus grande spécialisation. Et c'est une période comme ça où il y a une sorte de marge entre la poésie et le fait scientifique. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se perdre en fait dans ces lacunes, comme disait, c'était Baudelaire qui disait les lacunes non encore explorées par la science moderne. Et je trouve qu'elles sont intéressantes parce que elles nous permettent à la fois de parler de ce qui est établi par la science et du moment où la science s'arrête d'expliquer les choses. Et quand la science s'arrête, on peut ouvrir à la poésie. Mm-hmm. C'est aussi cette zone où croyance et fait scientifique se bousculent l'un l'autre. Et donc c'est intéressant parce que dans la création de notre savoir et de nos rapports au monde, c'est là où on voit en fait l'importance de la science et de ses valeurs.
Alors ce collègue dont vous parlez, Camille Flammarion, qui vit quand même dans un univers un peu sépia, quelle astronomie pratiquait-il? Quelles grandes questions se posait-il au milieu de ses collègues astronomes?
Alors, l'astronomie de cette fin du 19e siècle, c'est une astronomie essentiellement descriptive. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, on connaît 8 planètes, dont la Terre. Mmh. On connaît des petits astres comme les astéroïdes, les comètes qu'on arrive à voir à l'œil nu avec des lunettes. On a essentiellement des lunettes qui gagnent en taille pour gagner en résolution. On connaît une étoile très très bien, c'est le Soleil. On a quelques points lumineux Bien sûr, on pense que ce sont des étoiles, mais on ne sait pas si elles sont éternelles. On a très peu d'idées de la distance à laquelle elles se trouvent. Il faut se rappeler que la première fois qu'on a mesuré la distance d'une étoile, c'est en 1834, donc quelques années avant la naissance de Camille Flammarion. Et puis, il y a un grand débat à la fin du 19e siècle, début du 20e, sur des regroupements d'étoiles qu'on appelle des nébuleuses. Est-ce que ces nébuleuses sont à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée, ou est-ce qu'elles sont en dehors? La preuve ne sera amenée qu'en décembre 1924 par Edwin Hubble, disons la preuve finale. C'est donc juste quelques mois avant la mort de Camille Flammarion. Donc il relate un petit peu, il décrit ces nébuleuses. Il a dû apprendre que ces galaxies existaient vraiment et quelles étaient leurs distances, mais il n'a jamais vraiment écrit sur la notion de galaxie. Donc c'est cette transition, cette début du 19e siècle, en fait, il va y avoir un basculement d'une astronomie assez descriptive, le mouvement des planètes, le mouvement des comètes, et puis d'essayer de, à partir d'observations comme celle des éclipses, de commencer à faire une sorte de cartographie du système solaire. Quelles sont les distances entre le Soleil et les différentes planètes? On décrit aussi beaucoup les constellations, comme quand on va au planétarium. Donc on est dans la description. Et on ne se pose pas, on n'a pas les outils, en fait, vraiment, pour se poser les questions de compréhension. Comment ça fonctionne? Ouais. Et quand on dit comment ça fonctionne, ça veut aussi dire d'où ça vient? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ouais. Est-ce que ça durera toujours comme ça? Parce que dès que vous connaissez le fonctionnement, vous pouvez savoir que, eh bien, il y a un moment, ça va se transformer en quelque chose d'autre ou ça va s'arrêter.
Alors justement, ce fonctionnement depuis l'Antiquité, si on fait non pas une avance rapide, mais un retour rapide sur cette histoire de la compréhension des mécanismes du Soleil, quelles étaient les grandes idées autour de ce fonctionnement et de cette luminosité, de cette brillance, de cette lumière émise par le Soleil? Comment les astronomes l'expliquaient-ils?
Alors pendant longtemps, on n'a pas du tout expliqué. C'est-à-dire, c'était le feu central. Même si, alors c'est ça aussi, on parle du feu central, mais même si pendant jusqu'au XVIe siècle, on suppose que c'est la Terre qui est au centre de l'univers, donc le Soleil tourne autour de nous dans cette vision qu'on appelle géocentrique, avec la Terre au centre du système solaire, donc au centre de l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que l'illusion nous montre le matin. Vous voyez bien le soleil se lever, monter dans le ciel et descendre. Et ça, c'est un des grands progrès de l'astronomie. D'ailleurs, Camille Flammarion insiste beaucoup sur cette révolution copernicienne qui nous oblige à changer de point de vue. Attention, les illusions vous trompent. Vous voyez tourner le soleil autour de vous, mais c'est parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc on comprend à partir de Copernic cette révolution, mais jusqu'à cette époque-là, on n'a pas de mécanisme physique, en fait, pour expliquer l'origine de l'énergie du Soleil. Ça va vraiment commencer, en fait, au 18e, 19e siècle.
Alors, on en vient à notre archive du jour et on ouvre ce livre Astronomie populaire de Camille Flammarion, paru en 1880. Il s'agit de l'ouverture du chapitre 3, intitulé « Ça tombe bien, le Soleil ». Et vous allez l'entendre, ça nous donne déjà pas mal de clés sur la façon dont les astronomes comprenaient à l'époque le Soleil. Source éblouissante de la lumière, de la chaleur, du mouvement, de la vie et de la beauté, le divin soleil a dans tous les siècles reçu les hommages empressés et reconnaissants des mortels. L'ignorant l'admire parce qu'il sent les effets de sa puissance et de sa valeur. Le savant l'apprécie parce qu'il a appris à connaître son importance unique dans le système du monde. L'artiste le salue parce qu'il voit dans sa splendeur la cause virtuelle de toutes les harmonies. Cet astre géant est véritablement le cœur de l'organisme planétaire. Chacune de ces palpitations célestes envoie au loin, jusqu'à notre petite Terre, qui vogue à 37 millions de lieues, jusqu'au lointain Neptune, qui roule à 1100 millions de lieues, jusqu'aux pâles comètes abandonnées plus loin encore dans l'hiver éternel, et jusqu'aux étoiles à des millions de milliards de lieues. Chacune des palpitations de ce cœur enflammé lance et répand sans mesure l'incommensurable force vitale qui va répandre la vie et le bonheur sur tous les mondes. Cette force émane sans cesse de l'énergie solaire et se précipite tout autour de lui dans l'espace avec une rapidité inouïe. 8 minutes suffisent à la lumière pour traverser l'abîme qui nous sépare de l'astre central. La pensée elle-même ne voit pas distinctement ce bond de 75 000 lieues franchi à chaque seconde par le mouvement lumineux. Et quelle énergie que celle de ce foyer! Déjà, nous avons apprécié la valeur du globe solaire, 108 fois plus large que la Terre en diamètre, 1 279 000 fois plus immense en volume, 324 000 fois plus lourd comme masse. Comment nous figurer de pareille grandeur ? Voilà, Jean-Philippe Usan, cet extrait du chapitre 3, Le soleil de l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Je disais avant de lancer ce son-là qu'il y a beaucoup d'éléments déjà dans de compréhension du soleil. Alors vous, quels sont ceux que vous retenez justement dans ce texte ?
Parce que là, on pourrait dire qu'il y a en gros trois types de registres. Il y a déjà des phénomènes physiques. On parle de lumière, de chaleur, de mouvement. Donc ça, c'est quelque chose de... Voilà, on voit qu'on est en train de parler de phénomènes physiques. On a cette référence à la mythologie de ce soleil, hein, le divin soleil. Donc il a cette stature. Et puis ensuite, on a toute une description, on va dire, des distances et de la géographie du système solaire, donc avec la taille des orbites, dans cette unité qui est le lieu, qui n'est pas l'unité que nous utiliserions aujourd'hui. On utiliserait des kilomètres. Il faut savoir que on est en 2025. On fête là les 150 ans de la convention du MED, donc le fait qu'on ait voté ce système international d'unités qui soit mis en les unités que tous les étudiants apprennent à l'école. On part plus en lieu, mais on peut faire les traductions. Les chiffres sont pas mauvais du tout. Et puis on a cette petite indication sur la lumière, en fait, le temps qu'elle nous met pour nous parvenir, ce qui veut dire indirectement qu'il avait une idée sur la vitesse de la lumière déjà à son époque.
Et il est très précis, puisque
il est très précis.
On rappelle que le temps que la lumière met à nous parvenir depuis le soleil est assez proche.
C'est 500 secondes.
500 secondes, donc 8 minutes 20. Et lui, il parle de 8 minutes. Donc il avait réussi à être assez près de la vérité. Est-ce qu'on sait d'ailleurs comment il a obtenu ce résultat-là ou pas ?
Alors en fait, la question de la vitesse de la lumière, c'est une question qui est assez longue dans l'histoire des sciences. Déjà, Galilée, en fait, s'était posé la question, est-ce que la lumière se propage instantanément ou pas? Donc, il avait fait des expériences avec des collines, des lanternes, il n'avait pas pu conclure, parce que la vitesse de la lumière est beaucoup trop grande. Et en fait, c'est un astronome qui travaillait à l'Observatoire de Paris, Römer, qui a montré que la vitesse de la lumière était finie. Il regardait, en fait, les satellites, donc en particulier le satellite Io de Jupiter. Et puis, James Bradley, au XVIIIe siècle, arrive pas à mesurer directement la vitesse de la lumière, mais il arrive à dire c'est 10 000 fois la vitesse de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Et donc là, on se rend compte que si on est capable de mesurer la vitesse de la lumière avec une grande précision, on va avoir une information sur la vitesse de la Terre autour du Soleil. Comme on sait que ça prend un an pour faire ce tour du Soleil, eh bien, on va avoir une idée de la taille de l'orbite terrestre. Et donc, on s'est rendu compte que la vitesse de la lumière permettrait d'étalonner le système solaire. Et donc, on a des mesures, en particulier par Léon Foucault, on commence à mesurer la vitesse de la lumière de façon de plus en plus précise à partir du milieu du 19e siècle. Et c'est aussi à cette époque que James Clerk Maxwell, le grand savant écossais, va proposer sa première théorie de la lumière, quoi, qui est l'électromagnétisme, la théorie de tout ce qui est des phénomènes électriques et magnétiques. Et il va en déduire que la lumière, en fait, est un phénomène électromagnétique, donc il va comprendre la nature physique de ce que c'est la lumière, et il va être capable de relier sa vitesse à certaines constantes fondamentales. Donc on va avoir une révolution déjà, une première révolution sur la nature de la lumière, et ça a des importances fondamentales pour l'astronomie, déjà pour les tailles dans le système solaire, les tailles des orbites, et puis aussi, et ça Camille Flammarion le décrit en large et en travers, dit si la vitesse de la lumière est finie, ça veut dire que regarder loin, c'est regarder dans le passé.
C'était déjà...
Donc on a cet élément qui va continuer à être développé, et donc il va nous permettre de raconter l'histoire du système solaire, mais aussi l'histoire des autres galaxies, des galaxies lointaines, qui vont nous permettre de reconstruire l'histoire de l'univers.
Alors justement, c'est une des grandes questions qui se pose à cette époque-là, c'est finalement, pourquoi quand on se pose la question « pourquoi le soleil brille ?», ça revient aussi à se poser la question de son âge, finalement, à ce moment-là, et quel problème ça pose, concrètement ?
Alors, le Soleil a un volume fini, c'est une sphère. Donc, il y a une quantité de matière et il faut produire de l'énergie. Donc, imaginons que ça soit de la combustion, donc une réaction chimique. On a une idée, en fait, de la quantité d'énergie qui peut être fournie par un gramme de matière que l'on va brûler. Si on a une idée de sa masse et de son volume, on peut dire, en fait, regardez sa luminosité. D'ailleurs, Flammarion, là, nous donne des chiffres sur la luminosité du Soleil. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On sait que, bien sûr, la Terre ne capte pas toute l'énergie du Soleil, hein, parce que la Terre est toute petite. Je crois que c'est à peu près un milliardième de l'énergie du Soleil qui est rayonnée, qui est captée par la Terre. Et donc, on se dit, en fait, on va consommer de l'énergie. Si on la consomme, on va dire à taux constant, eh bien, au bout de combien de temps est-ce que ça s'arrête ? Et on arrive sur des échelles de temps qui sont quelques centaines de millions d'années, quelque chose comme ça. Et donc, c'est très, très court, parce qu'on commençait déjà à avoir, donc, un des grands débats était celui de l'âge de la Terre. On avait commencé à chiffrer chiffrer en se disant si la Terre a dû se refroidir, donc les fameuses expériences de Buffon pour savoir en fait combien de temps il faudrait pour que la Terre se refroidisse. On était sur quelques centaines de millions d'années. Je crois que Flammarion utilise le chiffre de 350 millions d'années dans son texte. Et puis avec la découverte de la radioactivité, on se rend compte que c'est beaucoup plus, parce que la radioactivité de la Terre en fait qu'elle va mettre beaucoup plus de temps à se refroidir. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec ça. On est sur 4,5 milliards d'années pour l'âge de la Terre. Et donc, il fallait une source d'énergie qui est suffisamment stable et suffisamment puissante pour pouvoir rayonner autant que ce qui est observé.
Alors justement, là, cette histoire, moi, ce que je trouve beau dans cette histoire de la compréhension des raisons pour lesquelles le Soleil brille, c'est que ça croise finalement le chemin à nouveau de la théorie de l'évolution. Et j'ai l'impression que à ce moment-là aussi, l'astronomie se met dans une forme de dynamique et suit ce mouvement aussi de la théorie de l'évolution. Et les choses deviennent beaucoup moins statiques, beaucoup moins immuables, beaucoup moins éternelles. En quoi le Soleil est-il affecté d'une certaine façon par Darwin ?
Alors, je sais pas si le Soleil va être affecté par Darwin. Il va être affecté par une révolution de la physique à la fin du 19e, début du 20e siècle. Parce qu'il y a il y a de nombreuses révolutions en physique, mais on peut en citer trois. Déjà, il y a la théorie de la relativité générale, dont une de ses conséquences va être cette fameuse formule d'Einstein, E égale MC2, qui veut dire qu'on peut transformer de la masse en énergie. Ça, c'est la première chose. C'est aussi l'époque où on comprend que la matière est formée d'atomes. On met en évidence l'existence de ces atomes. On arrive à comprendre qu'ils sont formés de neutrons et de protons, hein, qui vont être respectivement découverts par Rutherford et Chadwick en 1914 et 32. Et puis, on va se rendre compte qu'il va y avoir, au niveau nucléaire, des forces que l'on ne connaissait pas avant, les forces nucléaires. Et il va y avoir deux conséquences de ça, c'est qu'on va pouvoir extraire de l'énergie, soit en cassant des gros noyaux, c'est ce qu'on appelle la fission. Ça, on l'utilise dans les réacteurs nucléaires aujourd'hui sur Terre fabriquer de l'énergie. Et d'autre part, si on prend des noyaux légers et qu'on les fusionne, eh bien, on va former de l'énergie. Et donc, on a les éléments qui se mettent en place, on va dire, dans les trois premières décennies de ce 20e siècle, la formule d'Einstein, l'existence de la fusion nucléaire, l'existence des protons, neutrons, et puis les premiers modèles d'étoiles, en particulier par Eddington dans les années 1920-1930. Et donc, on a tous les éléments pour comprendre que ce qui produit l'énergie du Soleil, eh bien, ce n'est pas une combustion, ce sont des réactions nucléaires, des réactions de fusion nucléaire. Donc, le Soleil est principalement constitué d'hélium, en gros, en masse à 75%, et d'un peu...
Le bien nommé hélium, je le disais.
Et un peu d'hélium. Et ça, référence. C'est aussi intéressant, cette histoire de l'hélium, parce que c'était un élément que l'on ne connaissait pas sur Terre. Il a été mis en évidence par Jules Janssen, qui travaillait à l'Observatoire de Paris. C'est en 1868, on est à Madras, dans une ville Guntur, où au cours d'une éclipse de soleil, il observe dans le spectre atomique, donc la décomposition de la lumière soleil, du soleil en arc-en-ciel, où on voit des raies d'absorption qui sont caractéristiques de ces atomes. Et il prouve qu'il y a des raies d'un élément qui n'est pas connu sur Terre, qu'on va appeler l'hélium, en référence à Hélios, le soleil. Et donc, tous les éléments sont là, et avec de l'hélium et de l'hydrogène, vous ne pouvez pas faire de la combustion, donc c'est pas possible. Et c'est l'énergie nucléaire produite au cours de la fusion qui va se faire, en fait, au cœur de l'étoile. Et on comprend qu'en gros, le mécanisme, c'est qu'on a une masse d'hydrogène qui est très, très grande. Sous son propre poids, eh bien, elle se concentre. La densité au cœur est suffisamment haute et la température est suffisamment haute pour qu'il puisse y avoir, au sein de ce cœur, des réactions de fusion nucléaire.
De fusion nucléaire, donc 74% d'hydrogène, 25% d'hélium et le pourcent restant, c'est tout un tas d'autres éléments.
Un peu de carbone, un peu d'azote.
C'est un peu tout ça. On comprend bien, donc du coup, Jean-Philippe Usan, que dans cette histoire de la compréhension de cette question « Pourquoi le Soleil brille-t-il ?», il y a tout un arsenal finalement théorique qui se met en place. Vous parliez de cet effondrement sous son propre poids, donc là de cette interaction physique élémentaire qu'est la gravitation. Il y a deux autres interactions aussi qui se développent et sont décrites au XXe siècle. Quelle importance ont justement ces descriptions de l'interaction faible, l'interaction forte sur la compréhension de la brillance du Soleil?
En fait, pour comprendre l'histoire d'une étoile, il faut connaître les quatre forces fondamentales de la nature. Donc la gravitation qui fait que la matière se regroupe, se concentre, a tendance à s'effondrer sur elle-même. l'électromagnétisme de Maxwell, donc qui va nous permettre de décrire comment la lumière se comporte et donc comment cet astre rayonne et évacue cette énergie qui est produite. Et puis les deux types de réactions nucléaires, faibles et fortes, en fait, qui sont en jeu en fait pour dans ces réactions de fusion, et la réaction nucléaire forte qui va expliquer aussi la stabilité des noyaux atomiques. Et on voit que en produisant de l'énergie, l'étoile transforme de l'hélium d'abord en hydrogène et puis dans des stades ultérieurs, et ça va dépendre de la masse de l'étoile, éventuellement dans des noyaux plus lourds comme le carbone, l'azote et l'oxygène. Donc on voit que si on a au départ de l'histoire de l'univers, dans les premières secondes après le Big Bang, que de l'hydrogène, eh bien, grâce à l'évolution des étoiles, on va produire des atomes beaucoup plus gros, et en particulier le carbone, l'azote et l'hydrogène. Et ça, ça a une importance fondamentale. Ce sont ces noyaux atomiques qui nous composent, nous. Les carbones, dont toutes les molécules organiques sont à base de carbone, et c'est les molécules que les astrophysiciens appellent les schnobs, donc carbone, donc l'hydrogène qui était l'avant, oxygène, azote, phosphore et soufre, qui sont en fait les noyaux atomiques qui sont le plus présents dans le vivant aujourd'hui.
Ce qui faisait que Hubert Reeves disait souvent « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Il avait raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, Jean-Philippe Uzan, on glisse du Soleil vers les étoiles. Et c'est aussi l'histoire de cette compréhension par les astronomes et les astrophysiciens des étoiles, c'est que finalement, le Soleil est rangé dans une catégorie et dans des familles d'étoiles qu'on connaissait peut-être moins bien. Alors là aussi, il y a toute une histoire de catégorisation, de compréhension de grands groupes d'étoiles. Le Soleil est une naine jaune. C'est finalement une étoile qui est assez banale, qui est ni trop grosse, ni trop petite, ni trop vieille, ni trop jeune. Ça aussi, c'est l'histoire des sciences astronomiques et astrophysiques de ce début du XXe siècle qui explique cette déchéance relative du Soleil.
Oui, je ne sais pas si c'est une déchéance.
Non.
C'est surtout, ça le replace dans une diversité. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, si on est, on va dire, au milieu du 19e siècle, en fait, des gens comme Auguste Comte, par exemple, disaient, en fait, l'astronomie n'est pas une science parce que vous ne pourrez jamais savoir de quoi est constituée une étoile. Vous ne pourrez jamais comprendre comment elle fonctionne. Henri Poincaré, quelques années plus tard, c'est fou, il avait vraiment courte vue. Là, je mets vraiment des guillemets parce que c'est pas de moi, j'oserais pas. Mais Henri Poincaré dit ça parce qu'on arrive, grâce à la physique, à savoir quelle est la composition chimique de ces étoiles. Et puis surtout, grâce à une science qu'on appelle la thermodynamique, on va faire le lien entre la couleur d'une étoile et sa température de surface. Donc, on sait qu'une étoile qui est moins chaude va être plus rouge, une étoile plus chaude va être plutôt blanche ou bleue. Et donc, on voyait des couleurs, ce que les astronomes appellent les températures de couleur, qui permettaient d'avoir une idée de la température. Donc, vous voyez qu'il y avait des étoiles de différentes températures. Et puis, on va être capable de mesurer aussi, avec le temps, leur masse. Donc, on sait que ces étoiles, elles fonctionnent sur le même type de fonctionnement que notre Soleil, sauf qu'elles ont des différences qui sont qu'éventuellement, elles ont des masses différentes. Elles ont pas exactement la même composition chimique. Certaines peuvent avoir peut-être un peu plus de ces éléments au-delà de l'hydrogène et de l'hélium. Elles peuvent avoir une rotation, éventuellement des champs magnétiques. Donc, il y a un certain nombre de propriétés. Mais une fois qu'on sait comment ça brille et qu'on peut écrire les équations, eh bien, on se fait devin d'une certaine façon, parce que on peut faire un modèle du Soleil. Déjà, on peut avoir une idée de son âge, mais aussi on peut dire dans combien de temps est-ce que le Soleil aura, consommé tout l'hydrogène de son cœur, et qu'est-ce qui se passe après. Et on va réaliser que le Soleil, qui est une naine jaune, donc une étoile assez petite et de couleur jaune, en fait, ne va pas rester dans cet état pendant toute son évolution. Il va se transformer à terme en géante rouge, donc va gonfler en se refroidissant. L'enveloppe extérieure va être soufflée par des vents, donc ça pourrait donner une nébuleuse planétaire qui éventuellement permettra plus tard d'avoir un nouveau système planétaire, et se transformer ensuite en naine blanche, donc une étoile beaucoup plus petite et plus chaude. Et donc on voit que le Soleil est une étape dans une évolution, dans une histoire. Et on sait que le paramètre clé pour cette évolution, le premier paramètre, c'est la masse. Plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Et ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire que les masses, les étoiles, donc le Soleil, en gros, va avoir une durée de vie de 10 milliards d'années. Donc, on est à peu près à la moitié de sa vie. Pour comparaison, on estime l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Une étoile qui est un peu plus légère que le Soleil va très vite avoir une durée de vie qui est plus longue que l'âge de l'univers. Donc, il va continuer encore à briller pendant des milliards d'années. Mais des étoiles qui sont plus massives, 10 masses solaires, 100 masses solaires, en fait, ont des durées de vie qui sont assez courtes. Et en fait, ce sont ces étoiles massives qui, en fin de vie, qui en général ont une fin de vie explosive de type supernova, vont en fait ensemencer l'univers de tous ces atomes qui vont être ensuite permettre de faire des cailloux, des planètes, des êtres de la chimie et puis éventuellement des êtres vivants. Donc en fait, le Soleil est replacé dans une histoire, l'histoire stellaire. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, comme la matière qui nous constitue s'intègre dans cette histoire stellaire, en fait, on découvre une sorte de filiation stellaire. On est dans une histoire de famille. Au lieu de raconter l'histoire d'un personnage, où on peut pas deviner ce qu'il va devenir, on peut rien prédire, en le remettant dans cette famille, on arrive à savoir quel va être son futur, on arrive à le comparer à l'évolution d'autres étoiles, et la comparaison est un point de départ de la science. Si vous n'avez qu'un seul objet, difficile de faire de la science. On a besoin de reproductibilité, on compare des phénomènes, on compare différents objets pour voir leur similitude, leurs différences, les paramètres qui sont importants dans leur évolution.
Alors, vous le disiez tout à l'heure aussi, Jean-Philippe Usan, ce qu'on observe à cette transition du 19e et du 20e siècle, c'est une transition, finalement, entre la description et l'explication. L'explication vient en grande partie de théorie. Vous êtes physicien, théoricien. Alors, dans cette histoire, justement, de la compréhension du Soleil, quelle place capitale à la théorie, ont les théories pour expliquer ces mécanismes et puis voilà les replacer sur un panorama plus global de la compréhension des systèmes d'étoiles.
Alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est central, c'est-à-dire que déjà il faut comprendre que l'on peut transformer de la masse en énergie. D'accord ? Avant la relativité restreinte d'Albert Einstein, masse et énergie sont deux concepts différents. D'ailleurs, dans la petite archive, il y a aussi Camille Flammarion distingue chaleur et lumière. Pour lui, le Soleil nous envoyait des rayons de chaleur et des rayons de lumière.
À l'époque, la lumière était comprise comme
La lumière était ce que l'on voyait, donc on la décrivait comme une onde via la théorie de Maxwell, et la chaleur, en fait, c'était un petit peu moins clair. On a découvert, et ça c'est la thermodynamique du 19e siècle qui nous l'apprend, que la chaleur est une forme d'énergie. Et donc, on sait qu'il y a différentes formes d'énergie, la chaleur, le travail, la lumière a une énergie. Et c'est cette énergie qui se transforme en chaleur. Et donc, on voit qu'il ne faut pas distinguer ces deux phénomènes, que ce sont deux facettes d'un même phénomène qui est ce phénomène d'énergie. C'est la même chose pour la masse et l'énergie. La masse est une forme d'énergie. Ça c'est Einstein qui nous l'apprend. Et alors ça, c'est marrant. Si on fait un petit calcul, on pourrait se demander quelle est la masse d'hélium qui est transformée chaque seconde par le Soleil pour briller. Eh ben, c'est à peu près 600 millions de tonnes d'hydrogène qui est transformé en gros en 596 millions de tonnes d'hélium. Et il y a 4 millions de tonnes qui sont plus là dans l'équilibre. C'est ces 4 millions de tonnes qui ont été transformées en lumière et en énergie par ces réactions de fusion nucléaire. Donc c'est l'équivalent d'une pyramide égyptienne de Khéops par seconde. Vous voyez, c'est quand même une masse importante. Ouais. Et pour autant, on sait que depuis 4,5 milliards d'années, je crois que le Soleil a consommé que quelque chose comme 5% de son hydrogène. Donc ça nous donne un peu les proportions, la débauche d'énergie qu'il faut, en fait, les températures qu'il faut atteindre pour que ça soit possible, parce que ces réactions de fusion, comme elles sont très efficaces et qu'elles utilisent de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'hydrogène dans l'eau, par exemple. Donc, on a plein d'hydrogène sur Terre. L'idée de copier le Soleil avec des réacteurs de fusion nucléaire est une idée qu'on pousse. Mais pour autant, on n'arrive pas encore à atteindre ces densités et à les maîtriser. Mais on se dit que ça doit être possible puisque la nature le fait naturellement.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Usan, en tout cas, d'être venu nous raconter cette histoire de la compréhension par les physiciens des mécanismes du Soleil. D'autres belles histoires astronomiques et astrophysiques sont à retrouver dans votre livre « Une histoire populaire de l'univers » paru aux éditions Flammarion. Merci encore. Merci. The sunset at night. Hommage obligatoire à Brian Wilson avec The Warmth of the Sun par The Beach Boys pour tourner cette première page ensoleillée dans Science Chrono sur France Culture. On va rester dehors et au soleil. On part prendre l'air tout de suite sur un chantier de fouilles archéologiques.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Les archéologues de l'INRAP viennent de faire une découverte impressionnante à quelques kilomètres au sud d'Auxerre dans le cadre de fouilles préventives avant la construction d'une route. Cette découverte, c'est une villa gallo-romaine occupée du 1er au 4e siècle et dont la partie habitée couvre une surface de 4000 m² avec toutes les commodités, salles de réception, bassins, jardins, fontaines et thermes. De quoi nous donner envie d'aller visiter un chantier encore en activité qui se terminera en septembre 2025 avec, on l'espère, d'autres très belles découvertes sur ce site de Sainte-Nitas. Suivez le guide sur place, l'archéologue responsable de ces fouilles, Alexandre Burgevin. Alexandre Burgevin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'opérations et de recherche INRAP au sein de l'unité mixte de recherche chrono-environnement de l'Université Marie et Louis Pasteur de Besançon. On se retrouve aujourd'hui à quelques kilomètres d'Auxerre. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, me décrire dans quel environnement on se situe ?
Alors, on se trouve dans un environnement très rural, au milieu des bois, au bord d'un étang, à proximité d'une route, comme je pense que vous l'entendrez, et au milieu de la nature, puisque les oiseaux sont très présents autour de nous, puisque l'étang amène de la faune, et en limite d'une zone industrielle, pour être complet.
On va se balader un petit peu autour de ce site qui est en chantier. Là, voilà, il y a des fouilles en ce moment même. Pour commencer, on a évoqué le Moyen-Âge, on a évoqué la période gallo-romaine. Est-ce qu'on a une idée des différentes périodes d'occupation de ce site-là ?
Alors oui, à partir donc des fouilles des années 60, on a quelques éléments plus anciens qui sont sortis. On a notamment un petit bracelet en pierre assez caractéristique des productions du néolithique moyen, enfin en tout cas de l'étape moyenne du néolithique. Ensuite, on a eu quelques éléments, donc pareil toujours dans les années 60, des éléments, on a sur deux monnaies gauloises, hein, deux potins, donc c'est des monnaies en métaux vil, donc qui nous attestent de cette fréquentation. Et nous, par la suite, donc après le décapage, on a des éléments de l'âge du bronze, donc on a un fossé ou une fosse dans lequel on a retrouvé de la céramique du bronze final et un autre endroit en fait en bordure d'une fosse on a de la céramique là plutôt fin du bronze moyen, début du bronze final. Donc là c'est les périodes les plus anciennes qui sont documentées. On a également, pour encore remonter dans le temps, pour aller avec l'hypothèse néolithique, une petite hache polie en roche verte, mais qui, elle, n'est pas trouvée, ce qu'on appelle en position primaire, elle est plutôt en position secondaire dans des remblais gallo-romains. Mais en tout cas, elle peut techniquement provenir du site. Donc voilà, donc on a néolithique, bronze final, et pour aller dans l'hypothèse gauloise, il y a quelques jours, on a récupéré, mis au jour sous l'occupation antique, des éléments de céramique, plutôt de la fin du deuxième âge du fer, donc de ce qu'on appelle l'Athènes D. Donc entre 100 et 50 avant Jésus-Christ, avant la conquête.
On comprend que ce site a été occupé à plusieurs périodes. On marche en ce moment même autour de ce site de fouilles. Et là, on est déjà à côté de vestiges, de murs. On va faire un petit voyage achronologique, on va antichronologique, je ne sais pas comment le dire. On va remonter dans le temps. Là, on est sur la période peut-être la plus récente.
Voilà, c'est ça. Ici, on est devant donc l'établissement médiéval. On a devant nous un mur d'enclos, en fait. Alors, j'évite d'utiliser mur d'enceinte parce que je ne suis pas sûr que ce soit une enceinte fortifiée. C'est vraiment un mur de clôture sur lequel vient s'appuyer un bâtiment estimé entre 300 et 400 m², à l'intérieur duquel on peut distinguer, pour le moment, 6 ou 7 pièces, dont certaines étaient équipées de cheminées. Ce bâtiment, donc, on a des pièces couvertes habitées et on a au sein de l'enclos des espaces plutôt d'extérieur, dans lesquels on va avoir là ce qu'on pourrait appeler des niveaux de cour, où on est dans une zone assez humide de la parcelle, et on sait qu'à l'époque médiévale, avant de s'installer, ils ont déjà cherché à drainer le terrain en amenant des éclats calcaires et des tuiles, et après, même au cours d'utilisation, on voit l'ajout de ces éclats calcaires pour délimiter des zones de circulation, entre guillemets, à pied sec.
Alors, on parle beaucoup de ce bâtiment gallo-romain. Moi, j'ai hâte de le faire découvrir et de le faire découvrir, surtout aux personnes qui nous écoutent. Là, on longe un petit bosquet, une petite forêt. On va descendre par là. Je vous suis. Donc
là, on vient de laisser dans notre dos la partie médiévale et on s'approche d'une autre zone. Alors là, il y a un indice qui est quand même assez fort pour vous, archéologue. Décrivez-le-moi, cet indice.
Alors, cet indice, c'est les fondations donc de notre mur de clôture qu'on a franchi. En franchissant le bâtiment médiéval, on vient de rentrer dans l'espace de la villa, mais dans un espace plutôt vide, puisque à cette altitude de décapage, on n'a pas du tout d'éléments construits qui ressortent, c'est-à-dire qu'à l'altitude d'apparition du mur de clôture, on ne voit pas d'autres éléments construits. On en a quelques-uns, quelques restes là sur notre droite. Donc on sent qu'il y a un probable bâtiment ou un autre enclos empierré, donc un autre mur qui vient se poser contre ce mur de clôture, mais on est plutôt dans un espace assez vide.
Alors on parle de villa gallo-romaine, une villa gallo-romaine c'est pas qu'une maison, expliquez-nous ce que ça recoupe, ce qui va expliquer finalement ces grandes dimensions.
Une villa gallo-romaine, non, effectivement ce n'est pas qu'un simple habitat, c'est une unité de vie et de production, ça a plusieurs tailles. Actuellement la recherche en développe 3, ce qu'on appelle des établissements ruraux, en fait 1, 2, 3, en fonction de leur surface et en fonction de leurs aménagements. Le 1, c'est le plus petit, le 3, c'est les plus grands établissements qui peuvent aller jusqu'à une 20-30 d'hectares. Nos établissements ruraux, nos villas, elles sont découpées en deux parties bien distinctes. Une partie résidentielle qu'on appelle la pars urbana. C'est dans cette partie, effectivement, qu'on va avoir la partie privée, mais qui peut être aussi également publique, puisque en changeant de statut, plus on va avoir quelque chose de grand, plus il y aura de l'ostentation qui va être mise en forme. Et donc là, on envisage d'avoir des relations, en tout cas publiques, qui peuvent se dérouler à l'intérieur de ces murs ou de ces grandes pièces. Donc ici, à Sainte-Nitas, c'est le cas. On a à peu près 4000 m² de pars urbana distribués sur plusieurs pièces, plusieurs types de pièces. On va avoir un jardin. Autour de ce jardin, on va avoir des galeries. Ce jardin va être équipé d'une fontaine ou d'un bâtiment cultuel dans lequel on peut avoir un culte privé et d'un grand bassin, en fait, de la largeur d'une longueur de jardin, en fait, et de 20 mètres de longueur, 2 mètres de largeur. Ce bassin amène à la fois de la fraîcheur et amène de l'ostentation. Donc notre jardin carré, il est enclos de galeries et ces galeries desservent une série de pièces plus ou moins grandes, avec plus ou moins d'apparat, qui servent à la fois à la vie privée et à la vie publique. Et bien sûr, il faut envisager qu'au-dessus de ces pièces, on a l'étage, on va dire le rez-de-chaussée, mais on peut envisager au moins un étage, peut-être voire deux étages en fonction, mais ça c'est la fouille qui nous aidera à déterminer en fonction de la structure des murs et si on a des contreforts, etc. On pourra proposer un ou deux étages de restitution.
Si on devait décrire là, donc l'environnement autour de nous, il y a des fosses, il y a des murs qui ont l'air assez bien conservés. Et ça, c'est un des grands intérêts de ce site, c'est la hauteur des murs. Alors peut-être qu'on pourrait expliquer pourquoi c'est assez rare ça.
C'est assez rare parce qu'en fait, en général, on dit qu'en archéologie, en milieu rural, on a perdu de la terre due à la fois à l'érosion naturelle des sols, à la fois dû à la récupération. Quand vous abandonnez un secteur, une zone d'habitat, la vie doit continuer. Et donc, ce bâtiment, ce secteur devient déjà une source de carrière et d'exploitation pour les personnes qui sont autour. On vient récupérer de tout, de la pierre, de la ferraille, du métaux. Enfin, selon les périodes, chacun vient prendre ce qu'il veut. Donc, du coup, déjà, ça réduit la surface du bâtiment. Et en plus, ce qui a accentué en rural la perte d'information et la perte d'élévation, c'est le passage de la charrue qui était hypotractée, en fait, où là, forcément, vous êtes derrière votre charrue. Si votre socle de charrue bloque sur un mur, vous soulevez la charrue pour passer, vous conservez votre mur. Un tracteur, lui, il va tout droit. Et donc, avec l'arrivée des tracteurs dans les champs, on a perdu, comme ça, un peu plus de sol. En fait, on a perdu probablement, quand on décape, on est en bordure de fondation. Et on va dire, avant le tracteur, on avait peut-être la première assise ou deux assises d'élévation. Après le tracteur, on a perdu. Donc c'est vrai que nous, la chance à Sainte-Nita, c'est d'avoir des élévations qui vont jusqu'à 80, voire 0,80 mètres, je veux dire, à 1 mètre. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et ça renforce le côté prestigieux pour nous, parce que du coup, là, c'est du prestige du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a la surface qui donne le prestige antique, mais l'élévation nous donne, pour nous, archéologues, le prestige de la découverte.
On peut dire merci donc à la prairie.
Exactement. Ouais, en fait, on parlait d'humidité un peu avant. On envisage que cette zone, en fait, ait toujours été un peu humide. En tout cas, elle apparaît humide sur des cartes anciennes. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas, on n'a pas cultivé ici. Plus après l'apport de remblais qui ont protégé le site.
Alors on a parlé des grandes dimensions de cette villa, de sa division entre pars urbana, la partie habitation, et la pars rustica, qui est la partie plus d'exploitation, d'élevage. Alors on rentrera peut-être pas encore dans les détails, on n'a pas ces informations-là pour savoir quel type de culture était pratiquée, quel type d'élevage était pratiqué. Ça c'est des questions qui se posent, mais qui sont encore ouvertes là.
Voilà, pour le moment, puisqu'on est au troisième mois de fouille, et que notre décapage, si au départ, après le diagnostic, on pensait avoir la pars rustica, en fait, notre décapage a montré qu'on n'était que dans la pars urbana, qui est donc beaucoup plus grande. Et on va être un peu à la recherche de cette pars rustica, qui a peut-être malheureusement disparu dans l'exploitation de la carrière des années 60. Donc après, il nous reste l'espace dans lequel on est actuellement, là où on est en dehors des murs de l'habitat, mais à l'intérieur de l'enclos de la villa. Donc potentiellement, dans cette zone vide, on peut avoir déjà un espace qui n'est pas forcément un espace de jardin, mais peut-être déjà un espace agricole ou de stabulation. Ça, par contre, ça va être la problématique des mois suivants.
Alors j'aime bien qu'on se projette un petit peu. Moi, j'aimerais bien que vous me fassiez visiter votre maison, votre maison romaine, parce qu'on a entendu parler de bassins, de fontaines, avec potentiellement un lieu de culte privé, ce qui se faisait beaucoup à l'époque gallo-romaine. Si vous deviez me faire visiter des pièces qui vous plaisent particulièrement dans cette villa gallo-romaine, quelles seraient-elles ?
Donc là, on envisage qu'on est à l'extérieur. Devant nous devait se présenter un grand mur, donc probablement une porte pour entrer dans une pièce d'apparat. Cette pièce, elle fait à peu près 6,50 m de largeur sur 12 m de long. A priori, cette pièce n'est pas munie de piliers centraux, donc on a une espèce de grand hall, comme ça, avec un sol construit. Donc on est forcément ici dans une pièce de réception qui est censée impressionner par ses dimensions. Malheureusement, on peut envisager que soit elle a été enlevée, parce que les mosaïques se récupèrent, mais on peut très bien envisager ici un tapis de mosaïque qui aurait pu renforcer le côté prestigieux déjà des dimensions de la pièce. Donc cette pièce, on est actuellement, puisqu'il y a eu cette exploitation de carrière, nous donne l'idée qu'on est au sud de l'aile ouest en fait de la pars urbana. Elle pourrait venir terminer l'espace résidentiel, et derrière cette pièce, on pourrait rentrer donc dans la partie un peu plus technique et à vocation de production. Donc une fois qu'on est dans cette pièce, probablement un lieu de réception, en tout cas pour le moment, on en fait un lieu de réception. Peut-être qu'à la fin de la fouille, on aura d'autres éléments qui pourront guider un peu plus son interprétation. Mais on va pouvoir sortir de cette pièce, rejoindre une galerie qui, en fait, fait le tour de notre jardin.
Alors là, on se dirige vers la galerie. On entend presque déjà les eaux du jardin et les eaux du bassin.
En tout cas, on a les oiseaux.
On a les oiseaux, voilà, on a les camions aussi.
On a les camions aussi. On vient de traverser, notre galerie, et on est rentré dans le jardin. On est dans un jardin carré, comme on le voit notamment dans les villas italiennes. Alors je sais que c'est toujours un peu osé de prendre ce comparatif, mais la Villa des Mystères à Pompéi, en fait, elle a vraiment ce plan classique de l'hortus clausus, le jardin enclos, qui sera après repris hein, à l'époque médiévale, les cloîtres, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un espace de jardin desservi par des galeries. Donc là, on est vraiment dans un espace carré qui fait à peu près 20 mètres de côté. Au sud de ce bassin, pour terminer ce bassin, donc on a notre petit bâtiment sur une base carrée qui vient au sud et complété par une abside. Ce petit bâtiment peut être soit une fontaine, c'est le cas dans un établissement, une villa qui est à côté de Chablis, à la chapelle Vaupeltaigne, où on a ce genre d'aménagement, mais ça peut être aussi un élément de culte pour les habitants de la villa, puisque les gallo-romains, en fait, avaient leur lieu. Il y avait à la fois des temples à l'extérieur, mais chaque maison avait son culte personnel, ce qu'on appelle un larère pour les dieux de la maison. Donc là, vu la surface, si on est dans une zone cultuelle, on envisage que c'est peut-être un dieu un peu plus important qu'un dieu là. On a déjà retrouvé dans des établissements ruraux ce qu'on appelle des colonnes joviennes, donc des colonnes dédiées à Jupiter Taranis. En fait, c'était une colonne sur laquelle venait se posait une statue de Jupiter Taranis. On le reconnaissait parce qu'il avait un foudre et souvent une roue. Donc ça, c'est un cas qu'on a déjà croisé. En face, donc dans l'axe de cette fontaine, on remonte vers le nord et là, on va retrouver notre bassin. Donc notre bassin, on envisage ici un bassin quadrangulaire qui devait monter, allez, on va proposer une restitution à 1 mètre maximum, plaqué à l'extérieur et à l'intérieur de dalles calcaires blanches. Et derrière ce bassin, on va retrouver notre galerie qui va elle-même desservir toute une série de pièces dont on n'a pas encore la fonction. mais qui fait partie de la chance de Saint-Nicias et la richesse de Saint-Nicias, c'est qu'on a le sol de circulation de cette galerie qui se compose d'un mélange de mortier et de pierres, de mortier lissé, de pierres plus ou moins ocre, on va dire, entre ocre et blanc, et avec ponctuellement voilà, des petits éléments de pierre noire en fait, qui viennent rythmer un peu ces grands sols blancs. Et on envisage qu'entre notre bassin et notre galerie, on a un petit mur bahut qui servira à poser une colonnade qui elle-même va soutenir la toiture qui vient couvrir la galerie.
Comme un
cloître, ouais. En fait. Et après, derrière le cloître, derrière cette toiture, on va avoir les élévations d'étages.
C'est très émouvant ce morceau de sol parce que c'est pas si commun de pouvoir marcher finalement sur le sol d'une galerie de l'époque gallo-romaine.
C'est ça. Et surtout de l'époque gallo-romaine à la campagne. C'est-à-dire qu'autant, je disais, en rural, on perd de la terre, autant en ville, on gagne de la terre. C'est-à-dire qu'avant l'invention des pelles mécaniques et des bulldozers, en fait, on mettait à plat les bâtiments et on construisait par-dessus. C'est pour ça que les niveaux de sol dans les villes prennent 3, 4, 5, jusqu'à 10 mètres, en fait, selon les activités. Et donc, eux, on a plus de chances d'avoir ces configurations-là en ville, et c'est extrêmement rare à la campagne. Et notamment pour nous qui sommes vraiment là, en pleine alluviale, un peu plate, qui souvent sont exploités. Donc là, effectivement, à la fois pour moi, pour l'équipe, j'espère pour toute personne qui passera là, puisqu'on est aussi dans le cadre des JEA, on essaye de dégager un peu ces sols pour montrer au public aussi un peu l'intérêt des fouilles et le côté un peu exceptionnel de ces fouilles par la découverte et la mise au jour de ces sols.
On a parlé donc de cette pièce très impressionnante, du jardin avec sa fontaine, potentiel lieu de culte, de ce bassin, de cette galerie cloîtrée. Et on n'a pas trop évoqué encore le fait que cette villa a été occupée à plusieurs périodes, durant plusieurs siècles. Est-ce que cette différence temporelle dans l'occupation se marque dans l'architecture? Est-ce que vous avez différents niveaux justement d'aménagement en fonction de ces différentes périodes?
Tout à fait. On va avoir, donc c'est vrai que l'étape d'écapage met à niveau tous les états de construction de la villa, et l'acte de fouille en fait va permettre de discriminer quel mur fonctionne avec quel mur est recoupé par quel mur, et de nous donner en gros des états de construction, des phases d'occupation au milieu de ces états de construction. On sait que sur ce 1,50 m d'élévation, on a au moins pour le moment 3 états de construction, peut-être 4, plus ça va aller, je pense, plus ça va aller vers 4, et avec un phasage à l'intérieur de ces états. Et on voit très bien qu'en fait, le dernier état, ce qu'on appellera l'état 3, nous échappe en fait, puisqu'il est juste marqué par des tranchées d'installation de murs qu'on a perdus au milieu des pièces construites précédemment.
Alors on se décale un tout petit peu, et puis là, à notre gauche, il y a vos collègues qui sont en train de s'affairer, en train de fouiller. Une partie aussi où, étonnamment, il y a un dallage qui a l'air plutôt bien conservé.
Tout à fait, et même la structure de ce dallage est vraiment intéressante, puisqu'on voit deux niveaux. On a un premier niveau de dalle calcaire recouvert par des tuiles. Le tout est jointé, et par-dessus ces tuiles, en fait, on voit des agglomérats de petites dalles de terre cuite carrées, en fait, qui superposées, on appelle ça des pilettes. Et on suppose que ces pilettes viennent réceptionner un sol. Et donc, ce sol était l'ensemble de ce système, on appelle ça un hypocauste. En fait, c'est-à-dire que ces pilettes sont espacées, elles sont pas jointes, elles sont espacées l'une à côté des autres, permettent d'avoir un espace vide dans lequel on fera circuler de la chaleur et qui fera réchauffer par le fond en fait notre sol de circulation.
Alors quelle pouvait être l'utilité de cette pièce chauffée?
Souvent ces pièces chauffées, elles sont associées au rituel du bain. On envisage ces pièces chauffées donc toujours en relation avec de l'eau et donc avec ce qu'on appelle des thermes. Ici, il se trouve que dans notre établissement, on a déjà une partie qu'on peut considérer comme thermale, et donc là on est sur une pièce chauffée. Les hivers sont rudes à Auxerre, donc on peut très bien avoir simplement une pièce un peu mieux chauffée pour pouvoir passer l'hiver. Et donc à ce moment-là, on peut se dire qu'on est sur une pièce de vie. Soit ça peut être encore une pièce à fonction technique dont on n'a pas, étant donné qu'elle est en cours de dégagement, on n'a pas encore sa vocation. Mais probablement qu'à la fin de la semaine prochaine, on pourra déjà avoir une idée de pourquoi ils ont installé ici, en opposé à d'autres pièces chauffées, mais qui étaient plutôt à la vocation balnéaire.
Alors on va laisser vos collègues travailler tranquillement et on va se diriger bien sûr vers cette partie, parce que là vous avez attisé ma curiosité, vous m'avez parlé de thermes dans cette maison et dans cette villa gallo-romaine ici à Saint-Nicias. Alors on va se diriger tranquillement vers ce clou du spectacle un petit peu, j'ai envie de dire, le temps qu'on s'y rende. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait potentiellement des mosaïques mais qui avaient été enlevées. De ce point de vue là, est-ce que vous avez trouvé des traces, est-ce qu'il y a des morceaux de mosaïques, est-ce qu'il y a des objets de cette période gallo-romaine qui vous renseignent un petit peu justement sur le degré d'aisance éventuellement des propriétaires?
Alors tout à fait, disons que dans les différents états de construction et de reconstruction, on a une couche qu'on retrouve dans plusieurs pièces en fait, dans laquelle on va avoir à la fois des éléments d'enduit peint, c'est-à-dire que donc on applique un enduit frais sur lequel on va peindre et en fait au moment de sécher, cet enduit en fait va fixer les pigments, et c'est ce qui fait qu'on retrouve, malgré que ce soit détruit et que ça ait passé 1500 ans dans le sol, en fait on a les couleurs qui ressortent impeccables. Donc pour le moment, on sait qu'on a des décors de plaquage de couleurs. On a des lignes qui doivent dessiner des panneaux, pas encore de sujet figuré, on sait que ça existe, en tout cas pour le moment on n'en a pas. Et associé à cette couche dans laquelle on retrouve des enduits peints, on va retrouver aussi des tesselles de mosaïque, blanches et noires. Donc on est sur quelque chose d'assez classique, donc on peut envisager des grands tapis de mosaïque avec des décors de damiers ou des alternances de figures géométriques, de triangles, de cercles, de carrés. Mais pour le moment, on n'en a pas une seule en place. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas l'état 3, on est à peu près sur l'état 2, en majorité sur l'ensemble, et que globalement on a notre état 1 qui est quelque part en dessous et on espère peut-être que les anciens occupants nous ont laissé de la mosaïque en place, mais en même temps on sait que ces mosaïques, elles pouvaient soit être des espèces de tapis de forme, soit avoir une partie un peu plus construite, un peu plus noble, qu'on appelle l'embléma en fait, qui est le centre un peu de la pièce. Et ces emblémas, on sait qu'ils sont démontés et déplacés, puisque même après l'Antiquité, les emblémas de l'Antiquité, à la période moderne, vont être recherchés par les premiers antiquaires et seront intégrés, peuvent être intégrés aux constructions modernes.
Alors on s'est rapproché, j'en parlais tout à l'heure, on s'est rapproché des thermes. Là, c'est vraiment une partie qui est particulièrement bien dégagée. Moi, je me demande déjà ce que ça fait quand on trouve ce genre de choses, parce qu'on y est.
Alors, c'est très émouvant, puisque je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait une grosse épaisseur de remblai, mais il se trouve que l'endroit où on a trouvé les thermes, ça correspond à la fin du dépôt du remblai et au début de l'étang qui était l'exploitation de la carrière. Et donc, en fait, à cet endroit, il n'y avait à peu près que 10 cm de terre au-dessus des murs qu'on voit devant nous. Murs qui sont conservés pour le plus haut, donc on est sur 1 mètre là, d'élévation. Et donc, ces thermes, on a toute leur structure, c'est-à-dire qu'on a les murs qui encadrent, on va avoir les pilettes qui soutiennent le sol, on va avoir des zones dans lesquelles on va retrouver donc des mortiers hydrauliques qui permettent qui sont imperméables à l'eau, sur lesquels on vient plaquer, là encore, on va avoir ces plaquages de calcaire blanc pour décorer et animer les bassins. Et voilà, on va avoir au moins deux pièces chauffées. Donc là, de ce qu'on a, ces thermes, elles prennent une forme avec deux salles carrées équipé d'une abside en
hémicycle.
C'est deux petites absides en fait, deux pièces côte à côte avec deux petites absides. Et à côté de ces deux pièces, on va avoir deux éléments de bain en fait, de piscine. Est-ce que au moment où le système d'hypocauste est en place, est-ce qu'il y a un bassin chauffé? Ça, malheureusement, on ne pourra pas le dire. On sait en revanche que sur la fin d'utilisation, l'hypocauste est rebouché. On coule une chape de mortier hydraulique et on vient remettre un dallage calcaire qui lui devait être probablement, vu qu'on est dans les matériaux qui fonctionnent avec l'utilisation de l'eau, on doit avoir un fond de bassin en calcaire blanc en fait. Donc à terme, ça devient un espace vraiment de bain, alors probablement de bain froid, mais en tout cas un espace de bain.
Alors là, on a bien compris l'envergure de ce site, la beauté de ce site. C'est un site qui est pas fini, vous n'avez pas fini de le fouiller. Je crois que le chantier finira en septembre 2025. Quelles sont les prochaines étapes de travail?
Alors déjà, en décrivant les thermes, en fait, on s'est rapproché. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, la pars urbana s'articule donc en deux ailes, ouest et est, autour de notre jardin. Et dans l'aile est, on a nos thermes. Du coup, dans cette aile est, en fait, entre les thermes et le jardin, on a tout un espace de pièces qui peuvent être des pièces de réception, mais qui montrent des traces de feu. Donc on se demande si c'était pas une zone un peu réservée au feu, parce que voilà, l'utilisation du feu, c'est aussi pour la période antique, une zone, c'est problématique, parce que ça peut, voilà, on peut avoir des accidents, on peut mettre donc le feu soit à une partie de l'établissement, soit à tout l'établissement. Donc souvent on fait pas du feu partout, mais on réserve la zone. Et dans ces pièces-là, ces pièces ont l'air d'être très bien conservées et d'avoir beaucoup de successions de sols. Donc cette partie est, elle va être très intéressante et à mon avis très compliquée à fouiller, parce que là les occupations ne procéderont pas de grands travaux comme on a pu voir au nord du jardin ou à l'ouest du jardin. Là on a peut-être un endroit où on occupe depuis le début le même espace et on vient accumuler et faire que de très petites modifications. Ça veut dire qu'on va avoir là ce qu'on appelle des feuilletages de sol les uns sur les autres. Alors c'est hyper intéressant parce que du coup c'est les plus riches en termes d'informations et de temps d'occupation, mais c'est aussi les plus durs à appréhender parce que ce sont les plus fins.
On a parlé donc de cette occupation du 1er au 4e siècle, on ne s'est pas encore posé la question de qui habitait ici. On est dans une région où il y a quand même pas mal de grandes villas comme ça, on pense par exemple à Escolives-Saint-Camille, il y en a d'autres autour d'Auxerre, c'était des notables gaulois, romains, on est entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Qu'est-ce qu'on peut évaluer, estimer, supposer ?
Eh bien, l'importance de la surface d'habitat nous donne déjà la qualité des personnes qui y résident. C'est-à-dire qu'on est sur une famille très aisée qui a les moyens, par ses richesses, eh bien, de se faire construire des grands espaces dans lesquels on va mettre de l'ostentation. Alors, pour le moment, on n'a eu qu'un petit plaquage de marbre, mais on peut envisager aussi qu'à la fois, on peut avoir du décor peint, mais aussi on peut avoir du décor plaqué et donc intégrer des marbres de qualité assez noble dans les différents murs pour justement donner un peu d'apparat. Ces familles, forcément, on est à 3 km au sud d'Auxerre, le long de Lyon. On est dans le classique, entre guillemets, de la villa où on est un peu au calme, dans un côté un peu paradisiaque, mais à proximité de la ville, dans laquelle on va assumer des fonctions. On n'habite pas forcément en ville, dans lesquelles on assume des fonctions à la fois municipales ou religieuses. Mais en tout cas, l'aspect de la villa, il est là aussi, c'est qu'il est à la fois centre de production agricole, mais centre d'affaires et centre de représentation.
Et centre aussi de potentiel échange, puisqu'on rappelle, on n'est pas très loin d'une grande voie romaine.
Tout à fait. On est rive droite de Lyon et rive gauche de Lyon, passe la voie dite d'Agrippa, qui fait le lien entre Lyon et Boulogne.
Une dernière question. Là, on sait que voilà, le chantier n'est pas fini. Vous, qu'est-ce que vous rêvez de trouver ?
Alors, c'est difficile à dire, puisque je trouve qu'on a déjà...
C'est déjà pas mal, hein, franchement.
On a déjà beaucoup. On a des éléments de plaquage, des éléments construits, une belle architecture. Pourquoi pas retrouver de la sculpture, parce qu'on sait que forcément, on va avoir de la sculpture dans ce genre d'établissement. On a évoqué des tesselles de mosaïque, une mosaïque en place. Pour moi, le summum, parce que je suis très attaché à ça, ce serait aussi d'avoir des inscriptions, parce qu'on manque aussi d'inscriptions. Donc avoir des témoins écrits, et pourquoi pas, on évoquait un lieu cultuel, pourquoi pas une dédicace à un dieu avec le nom du dédicant et peut-être le nom du propriétaire du terrain. Voilà. Je pense que pour aller plus loin là, de ce qui est déjà formidable, ce serait aller effectivement dans la sculpture et dans les inscriptions. Quoi.
Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Alexandre Burgevin.
Merci bien Antoine.
Et un grand merci à toutes les équipes de l'INRAP qui nous ont accueillis et accordé de leur temps pour cet enregistrement. Et si vous voulez visiter ce chantier de fouilles, c'est possible ce week-end à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. On mettra toutes les informations pratiques sur la page de l'entretien archéologique. Et on termine par une annonce. France Culture lance sa série de podcasts Les Aventuriers de l'archéologie. La première aventure, c'est la découverte racontée par Jean-Jacques Hublin du crâne de Djebel Irhoud et de la façon dont elle a transformé nos connaissances sur Homo sapiens. Cette série coordonnée par Camille Renard, est réalisée par Assia Weber et est évidemment à écouter sur l'appli Radio France et sur le site franceculture.fr. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Ludovic Auger, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez nous réécouter sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.